politique depuis plusieurs semaines.
Et puis l'international ivoirien du RC Lens, Brice Djadjedje, a été interpellé hier à Arras dans le nord de la France pour des faits de violence conjugale. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Restez bien branchés sur VOA Afrique. Dans quelques instants, vous allez retrouver Morgane Guériec pour l'Amérique et vous. Très bonne écoute.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Morgane Guériec en votre compagnie, ravie de vous retrouver dans cette édition de L'Amérique et vous. Coup de projecteur ce soir sur l'esclavage aux États-Unis. Le mois de février est dédié à l'histoire des Noirs ici aux USA et on l'appelle le Black History Month, l'occasion de revenir sur la traite des Africains en Amérique du Nord. Quelles sont les spécificités de l'esclavage aux États-Unis? Qui étaient ces esclaves? Comment vivaient-ils? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette émission. Pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Pour les autres, vous pouvez participer en direct au 001 202 205 26 33. L'esclavage aux États-Unis. Pour nous en parler, notre invitée, c'est Sylviane Diouf. Vous êtes historienne spécialisée de la diaspora africaine. Vous avez dirigé un centre d'études sur l'esclavage à New York. C'est donc un honneur de vous avoir à nos côtés. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Alors, avant de se concentrer sur les États-Unis, petit rappel sur la traite des Noirs. Combien d'Africains ont été déracinés? Où ont-ils été amenés?
Alors, 12 millions et demi d'Africains ont été victimes de la traite et sur ces 12 millions et demi, 10 700 000 à peu près ont survécu à la traversée. Hein. Donc, à peu près 2 millions sont morts pendant la traversée de l'Atlantique et la plus grosse partie venait en fait du Congo et d'Angola, hein, 5 millions 6 à peu près. Ensuite, le Bénin et surtout l'ouest du Nigeria, à peu près 2 millions. Le Ghana, 1 million 2. La Sénégambie, 800 000. Hein, et au niveau des arrivées dans les pays, alors d'abord, les Africains sont arrivés dans absolument tous les pays, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes. La plus grande partie sont arrivés au Brésil, presque 5 millions, et aux États-Unis, à peu près 400 000. Hein, 400 000 qui représentent 3,6% du total des Africains qui ont été déportés par la traite.
Alors comment devient-on esclave concrètement? On est libre et puis finalement tout bascule, comment?
Voilà, alors la plupart des prisonniers de guerre, différentes guerres pour différentes raisons, prisonniers aussi de raids qui avaient été faits uniquement pour avoir des esclaves. Il y avait aussi pas mal de victimes de kidnappings et puis des condamnés. Alors condamnés pour meurtre, pour adultère, pour activité antisociale, mais aussi condamnés comme ça, simplement parce que à un certain moment, un roi ou avait besoin, enfin voulait avoir des esclaves et donc il y a eu des tas de condamnations qui étaient totalement frivoles.
Alors Sylviane Diouf, j'aimerais lire le commentaire de Lévi Djikombay, un de nos Facebookers. Voilà ce qu'il dit. Si les Africains ne vendaient pas leurs concitoyens, on n'allait pas parler du commerce triangulaire. Ne nous en prenons pas aux Occidentaux. Nos soi-disant chefs vendaient leurs concitoyens. Est-ce que c'est vrai?
Alors, bon, oui et non, c'est-à-dire qu'encore une fois, la notion d'Africain, la notion de Noir, la notion, etc., ça n'existait pas à l'époque. De la même façon qu'à cette époque-là, les Anglais et les Français étaient en guerre tout le temps, et ne se considéraient ni comme des Blancs, ni comme des Européens, et il n'y avait pas d'alliance, si vous voulez. Donc, effectivement, et il y a eu aussi un esclavage en Europe, d'Européens, et là aussi, les gens étaient vendus par les gens qui étaient... voilà. Donc, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à l'Afrique. Et encore une fois, les gens qui étaient vendus n'étaient pas considérés comme faisant partie de la... Comment peut-on dire c'était des gens qui étaient autres. Donc d'autres ethnies, d'autres régions, d'autres cultures, etc. Et il y a eu... donc c'était surtout ça qui avait lieu. Donc des prisonniers de guerre. À l'époque, en Afrique, on ne tuait pas les prisonniers de guerre, on les tuait en Europe. Les Européens ne faisaient généralement pas de prisonniers. En Afrique, on ne tuait pas des prisonniers de guerre, on les vendait.
Alors, gros plan maintenant sur les États-Unis. L'esclavage donc aux USA débute, si je ne me trompe pas, en 1619, un peu après l'installation des premiers colons. Quelles sont les spécificités de l'esclavage aux États-Unis ?
L'esclavage des États-Unis était, encore une fois, donc c'était d'abord au niveau du nombre des Africains était moindre que dans d'autres régions. La plupart des Africains ont été asservis et pour en fait cultiver le sucre, la canne à sucre. Aux États-Unis, ça n'était pas le cas. C'était plutôt l'indigo, le tabac sur la côte est. Et c'est vraiment très tard, au milieu du au début du 19e siècle, que les plantations de coton ont été développées, et c'est là que, bon, généralement, on associe les États-Unis avec la culture du coton. Mais ce qui est un petit peu spécifique, si vous voulez, c'est que la culture du sucre, de la canne à sucre, était extrêmement mortelle, en fait, et donc les Africains mouraient très rapidement, et donc on en importait, on en faisait arriver continuellement. Pour la culture du coton, la culture de l'indigo, du tabac, etc., c'était différent et donc on avait moins besoin, si vous voulez, de main-d'œuvre, d'où le plus petit nombre, disons, d'Africains qui sont arrivés aux États-Unis.
Alors le fait qu'ils étaient en moins grand nombre aux États-Unis, est-ce que ça a changé quelque chose pour eux? Est-ce que la dynamique était différente qu'est-ce que ça change dans leur quotidien, dans leur vie?
En fait non. L'esclavage, c'est l'esclavage. Il y a effectivement des variantes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, mais en réalité, les différences étaient minimes. Une fois que vous avez perdu votre liberté, une fois que vous avez été arraché à votre communauté, à votre famille, déplacé dans un pays complètement étranger, forcé de travailler du matin au soir, sous peine de châtiment extrêmement violent et extrêmement horrible, les différences ne sont pas extraordinaires.
Ouais. Alors, comment ça se passe pour eux quand ils arrivent? Quel est leur premier contact avec cette nouvelle terre qu'ils ne connaissent pas du tout?
Le premier contact, c'est que à l'arrivée sur le bateau négrier, les gens sont achetés. Donc ils sont vendus aux enchères se trouvent séparés des gens qui étaient avec eux sur le bateau. Il faut comprendre que le bateau négrier c'était un lieu de recréation de la famille, et si bien que les gens qui étaient sur le même bateau avaient en fait des liens très forts, et à l'arrivée, ces liens ont été brisés dans beaucoup de cas.
Quand vous dites recréation de la famille, excusez-moi, je ne suis pas sûre de comprendre.
Oui, c'est-à-dire que les gens qui étaient sur un même bateau venaient des fois d'origines différentes, parlaient des fois des langues différentes, de religions différentes aussi, mais il s'est créé sur les bateaux une communauté. Et ce qui est très, très intéressant de voir, c'est qu'ils ont, c'est que quels que soient les pays dans lesquels ils sont arrivés, ils ont utilisé le mot bateau pour décrire les liens qui les ont unis sur le bateau. Donc, par exemple, dans les pays anglophones, les gens qui avaient voyagé sur le même bateau s'appelaient shipmates. Dans les pays francophones, ils s'appelaient entre eux bâtiments. En espagnol, calaverla. En hollandais, sipi. Donc, ils ont créé une nouvelle communauté et ont donné à chaque membre, si vous voulez, de cette communauté, ils s'appelaient entre eux soit shipmate, soit bâtiment, soit sipi. Donc c'est quelque chose qui était très très fort.
Et une fois qu'ils arrivent, donc, ils se retrouvent, c'est une double fracture.
Donc ceux qui avaient, si vous voulez, la chance, si on peut dire, de rester, d'avoir des gens du même bateau qui étaient vendus en même temps qu'eux, chez le même propriétaire, planteur, etc. Bon, ça, la communauté restait, mais c'était des chirements, parce qu'il y avait aussi des gens sur le bateau qui étaient d'une même famille, mais qui étaient vendus à des propriétaires différents.
Et alors du coup, après, on arrive à la plantation, et comment s'organise cette nouvelle cohabitation, une fois encore, entre personnes qui n'ont pas la même langue, qui ne viennent pas du même endroit?
Alors, plantation et c'était pas que des plantations. Hein. On a cette image des grandes plantations avec 200 personnes, 300 personnes, mais très souvent, en fait, il s'agissait de fermes, hein, avec 5, 10, 15 personnes, 20 personnes maximum.
Donc, de toutes petites communautés, finalement.
Oui. Alors, d'abord, au niveau de comment les gens parlaient entre eux, comme vous le savez, en Afrique, beaucoup de gens sont multilingues. Donc ça, c'était quelque chose qui aidait. Et même, bon, on a vu sur les bateaux aussi, il y avait des interprètes, des gens qui parlaient plusieurs langues et qui pouvaient communiquer avec différentes personnes. Donc les gens qui venaient du même air culturel, souvent, bon, il n'y avait pas vraiment de problème de compréhension. Et puis petit à petit, les gens qui venaient d'aires culturelles différentes ont appris l'anglais ou le hollandais, l'espagnol, le portugais, etc. et ont créé des créoles, hein, qui existent encore aux États-Unis. Par exemple, ils ont créé la langue Gula et la culture Gula, et qui est un créole qui a des mots qui viennent de plusieurs aires culturelles, y compris l'arabe.
D'accord. Donc finalement, ils avaient déjà cette tradition et cette habitude de cohabiter. Alors, on va donner un petit peu la parole à un auditeur. Ça sera l'occasion pour vous de souffler, Sylviane Diouf. On a en ligne Diallo Tierno de Guinée. Bonsoir.
Oui, bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs et votre invité du jour.
Alors, est-ce que vous avez justement une question pour Sylviane Diouf sur l'esclavage, un sujet qu'elle maîtrise totalement?
Oui, bien sûr, j'ai deux questions. Premièrement, j'aimerais savoir comment sont-ils devenus esclaves. Est-ce qu'il y avait-il des complices à l'interne, ça veut dire les Noirs africains qui facilitaient l'échange entre deux continents? Deuxièmement, comment sont-ils retrouvés plus nombreux en Amérique du Nord que sur les autres coins du monde? Parce que selon ce que je sais, les Noirs sont très très nombreux en Amérique du Nord et aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, plus que dans les autres continents.
Alors, peut-être sur le deuxième volet de la question, Sylviane, sur la répartition des esclaves sur l'ensemble du monde.
Oui, alors la traite transatlantique a été la plus grande traite esclavagiste du monde. Hein. Il faut pas oublier ça. Donc en fait il n'y avait pas plus, comme je l'ai dit au début, d'Africains en Amérique du Nord. Au contraire, il y en avait moins qu'en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Mais sur l'ensemble de l'hémisphère occidental, c'est-à-dire les Amériques en général, effectivement, ça a été la plus grande traite esclavagiste. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a plus, effectivement, que la diaspora africaine se trouve plus dans les Amériques qu'ailleurs.
D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet. Ça va très très vite, malheureusement. Trop de choses à dire. Parmi ces esclaves, il y a des musulmans. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur la question. C'est en anglais. Servants of Allah, African Muslim Enslaved in the Americas. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces esclaves musulmans ?
Alors d'abord, il faut dire qu'on estime qu'il y a au moins 10% des Africains qui étaient musulmans. Donc c'est plus d'un million de musulmans qui ont été déportés aux Amériques comme esclaves. Alors l'une des caractéristiques, c'est que bon, pour beaucoup d'entre eux, c'était des gens qui étaient urbains. Comme vous le savez aussi, l'islam demande que les musulmans passent par l'école, sachent lire et écrire le Coran. Et donc, parmi ces musulmans, il y avait un certain nombre qui étaient lettrés, qui étaient soit élèves, étudiants, professeurs dans les écoles coraniques, juges en loi islamique. Et donc, on les retrouve partout. Hein. On les retrouve dans absolument tous les pays. Et pour se centrer sur les États-Unis, plusieurs sont devenus célèbres, ont laissé des documents écrits en arabe, de la même façon qu'ils ont aussi laissé des manuscrits en arabe au Brésil, en Jamaïque, aux Bahamas, à Panama, etc. Alors, par exemple, on a eu le cas de Ibrahima Souleymane Diallo, qui était sénégalais et qui était professeur d'école coranique et qui s'est retrouvé esclave aux États-Unis en 1731, qui a été libéré après avoir écrit une lettre en arabe à son père demandant à être libre. Un autre, c'est Ayouba Souleymane Diallo. Ibrahima Diallo, l'un des fils de l'Almami du Fouta Djallon en Guinée, a aussi été esclave pendant 39 ans dans le Mississippi. Lui aussi a écrit une lettre qui a été envoyée au sultan du Maroc, enfin toute une histoire, il a été libéré.
Et du fait, du fait de leur éducation, est-ce qu'ils avaient une position particulière ?
Alors certains, oui, certains qui étaient considérés par les blancs comme étant entre guillemets civilisés à cause de leur religion et du fait qu'ils savaient lire et écrire ont été utilisés comme contremaîtres. Mais la plupart sont restés anonymes, ont vécu comme tous les autres. Et il y a eu aussi cette notion que parce qu'ils étaient, certains étaient donc éduqués, ils n'étaient pas des Africains. Donc on disait, ouais non, c'est des Arabes, ils sont bronzés simplement, etc. Mais il y avait cette idée que les Africains ne pouvaient pas être civilisés, les Africains ne pouvaient pas savoir lire et écrire, donc on faisait de ceux qui savaient lire et écrire non plus des Africains, mais des Arabes.
Très bien. Ben écoutez, on va donner la parole très rapidement à un autre auditeur parce que j'aimerais beaucoup qu'on parle des Marrons et du Clotilda. Alors, bonsoir. Oui, c'est donc Hassan Boulalet. Bonsoir. Quelle est votre question ?
La question que j'aimerais poser à l'invité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, est-ce qu'on a indemnisé les descendants de ces esclaves-là ? Et quel est leur statut dans l'histoire américaine ? Est-ce qu'ils sont considérés des gens qui ont construit et qui ont bâti les États-Unis ?
Ça pourrait être le sujet de toute une émission. Allez-y, Sylviane.
Je ne suis pas sûre d'avoir compris entièrement la question.
Ce qu'il voulait savoir, c'est déjà, est-ce que les esclaves aux États-Unis ont été indemnisés ?
Non, pas du tout, non, non. Dans aucun pays, les esclaves n'ont été indemnisés. L'indemnisation venait aux propriétaires d'esclaves qui avaient perdu leur propriété, mais pas aux esclaves, non.
D'accord. Alors, écoutez, on va passer au marron, hein, parce qu'il nous reste plus que 5 petites minutes, malheureusement. Donc, face à l'horreur, beaucoup d'esclaves ont cherché à s'enfuir. On les appelle les marrons, et vous leur avez consacré un ouvrage, Slavery's Exiles, The Story of American Maroons. Comment les esclaves réussissaient-ils à s'enfuir, puisqu'on imagine que ça devait être une mission quasi impossible, surtout quand on était africain, pas né aux États-Unis, et finalement c'était une terre inconnue.
Voilà, alors en fait, ce qui est intéressant, d'abord effectivement, s'enfuir est extrêmement difficile, est extrêmement dangereux, mais ce qui est aussi vrai, c'est que les Africains, et surtout ceux qui venaient d'arriver, étaient en fait proportionnellement beaucoup plus prompts à s'enfuir que les autres. Ça, c'est vrai aux États-Unis comme dans tous les autres pays. Donc, dans mon livre, par exemple, je montre le cas d'Africains qui sont arrivés et deux jours après, qui se sont enfuis. Certains sont restés 3 ans cachés dans les forêts. Certains ont été évidemment repris, se sont enfuis à nouveau avec des chaînes aux pieds, etc.
Du coup, est-ce que les propriétaires se méfiaient beaucoup plus des esclaves africains ?
Absolument. Absolument. Surtout donc de ceux qui étaient arrivés entre juste à l'arrivée jusqu'à à peu près un an, ils étaient extrêmement surveillés parce qu'on savait que les Africains s'enfuyaient plus que les autres ils s'enfuyaient généralement en groupe en essayant ils partaient souvent avec leur couverture, leurs outils, etc. pour essayer de recréer une vie dans les forêts, les marécages, et je veux dire, c'était absolument incroyable. Je veux dire, ce sont des gens qui ne connaissaient rien du tout, ni au pays, ni au climat, ni à la faune, à la flore, et qui étaient prêts à tout pour redevenir libres.
Alors, maintenant, il ne nous reste plus que quelques minutes. On va passer au Clotilda. L'esclavage, donc, c'est le passé, mais il y a quand même des éléments qui refont surface. L'épave du Clotilda, un navire négrier, a été découvert le mois dernier en Alabama, dans le sud des États-Unis. Et vous avez également consacré un livre à cela, Dreams of Africa in Alabama, The Slave Ship Clotilda and the Story of the Last Africans Brought to America. Je ne sais pas si ça va faire sens pour nos auditeurs, mais au moins c'est dit. Donc, fait marquant, hein, ce bateau, c'est le dernier navire négrier à avoir accosté aux États-Unis. Et pour cause, c'est parce qu'à l'époque, l'esclavage était, il était interdit d'amener des esclaves aux États-Unis. Donc, c'est un contexte très, très particulier. Qu'est-ce que ça implique pour ces esclaves ?
Alors, oui, d'abord, la traite a été interdite aux États-Unis le 1er janvier 1808. Et là, on parle d'un navire qui est arrivé en juillet 1860, juste quelques mois avant le début de la guerre de sécession. 110 personnes arrivées du Bénin, certains venaient du Nigeria, mais principalement donc du Bénin, et ils ont été amenés sous couvert en secret. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, bon, ils ont été esclaves pendant 5 ans, libérés comme tous les autres esclaves en 1865, et ils ont voulu retourner chez eux. Ils n'y sont pas réussis. Ils ont demandé à leur ancien maître de leur donner des terres. Il a refusé. Et ils se sont cotisés, etc. Ils ont acheté des terres. Ils ont créé leur propre communauté. Ils ont créé une petite ville, African Town, avec leurs juges, leurs chefs, etc. Cette petite ville, cette communauté existe encore. Leurs descendants, certains de leurs descendants vivent toujours dans cette petite ville. Et disons, c'est la seule communauté de ce genre qui existe. Comme le dernier survivant est mort en 1935, on a eu le temps de prendre des photos, de les interviewer, etc.
Oui. Alors malheureusement, c'est la musique de la mort, j'ai envie de dire, puisque l'émission se termine. Merci Sylviane Diouf d'avoir été des nôtres. Merci aux auditeurs à qui j'ai pas beaucoup donné la parole, à la production Georges Léonard Sagnon, présentation Morgane Guiriec. À très bientôt.